et le vrai Klaus Schwab. Un vieux oncle bienveillant désireux de faire du bien à l'humanité. Ou est-il vraiment le fils d'un collaborateur nazi qui a utilisé le travail des esclaves et aidé les efforts nazis? Obtenir la première bombe atomique. John Yves Moore enquête. Le matin du 11 septembre 2001, Klaus Schwab prenait son petit déjeuner dans la synagogue Park East à New York avec le rabbin Arthur Schneier, ancien vice-président du Congrès juif mondial et proche associé des familles Bronfman et Lauder. Ensemble, les deux hommes ont assisté à l'un des événements les plus marquants des 20 prochaines années alors que des avions frappaient les bâtiments du World Trade Center. Aujourd'hui, deux décennies plus tard, Klaus Schwab est à nouveau assis au premier rang d'un autre moment décisif de la génération dans l'histoire de l'humanité moderne. Semblant toujours avoir une place au premier rang lorsque la tragédie approche, la proximité de Schwab avec des événements qui changent le monde doit probablement au fait qu'il est l'un des hommes les plus connectés de la planète. En tant que moteur du Forum économique mondial, l'Organisation internationale de coopération publique-privée, Klaus Schwab a courtisé les chefs d'État, les chefs d'entreprise et l'élite des milieux universitaires et scientifiques dans le giron de Davos pendant plus de 50 ans. Plus récemment, il a également courtisé la colère de beaucoup en raison de son rôle plus récent en tant que leader du Great Reset, un effort de grande envergure pour refaire la civilisation à l'échelle mondiale au profit exprès de l'élite du Forum économique mondial et de leurs alliés. Schwab, lors de la réunion annuelle du Forum en janvier 2021, a souligné que l'instauration de la confiance ferait partie intégrante du succès de la grande réinitialisation, signalant une extension ultérieure de la campagne de relations publiques déjà massive de l'initiative. Bien que Schwab ait appelé à l'instauration de la confiance grâce à des progrès non spécifiés, la confiance est normalement facilitée par la transparence. C'est peut-être pourquoi tant de gens ont refusé de faire confiance à M. Schwab et à ses motivations, car on en sait si peu sur l'histoire et les antécédents de l'homme avant sa fondation du Forum économique mondial au début des années 1970. Comme de nombreux leaders éminents pour les programmes parrainés par les élites, le dossier en ligne de Schwab a été bien nettoyé, ce qui rend difficile de trouver des informations sur ses débuts ainsi que des informations sur sa famille. Pourtant, étant né à Ravensburg, en Allemagne, en 1938, beaucoup ont émis l'hypothèse ces derniers mois que la famille de Schwab aurait pu avoir des liens avec les efforts de guerre de l'Axe, des liens qui, s'ils étaient exposés, pourraient menacer la réputation du Forum économique mondial, et entraîner un examen non désiré. À ses missions, et motivations déclarées. Dans cette enquête sur le Hangout illimité, le passé que Klaus Schwab a tenté de cacher est exploré en détail, révélant l'implication de la famille Schwab, non seulement dans la quête nazie d'une bombe atomique, mais aussi dans le programme nucléaire illégal de l'apartheid en Afrique du Sud. L'histoire du père de Klaus, Jean Schwab, qui a conduit la branche allemande soutenue par les nazis d'une société d'ingénierie suisse dans la guerre en tant qu'entrepreneur militaire de premier plan, est particulièrement révélatrice. Cette société, Eschewis, utiliserait le travail des esclaves pour produire des machines essentielles à l'effort de guerre nazi ainsi que l'effort des nazis pour produire de l'eau lourde pour son programme nucléaire. Des années plus tard, dans la même entreprise, un jeune Klaus Schwab a siégé au conseil d'administration lorsque la décision a été prise de fournir au régime d'apartheid raciste d'Afrique du Sud l'équipement nécessaire pour poursuivre sa quête de devenir une puissance nucléaire. Le Forum économique mondial étant désormais un défenseur éminent de la non-prolifération nucléaire et de l'énergie nucléaire propre, le passé de Klaus Schwab fait de lui un médiocre porte-parole de son programme déclaré pour le présent et l'avenir. Pourtant, en approfondissant encore ses activités, il devient clair que le véritable rôle de Schwab a longtemps été de façonner les agendas mondiaux, régionaux et industriels du présent afin d'assurer la continuité d'agendas plus vastes et beaucoup plus anciens qui ont été discrédités après la Seconde Guerre mondiale, pas seulement la technologie nucléaire, mais aussi les politiques de contrôle de la population influencées par l'eugénisme. Une histoire Schwab. Le 10 juillet 1870, le grand-père de Klaus Schwab, Jacob Wilhelm Gottfried Schwab, appelé plus tard simplement Gottfried, est né dans une Allemagne en guerre avec ses voisins français. Karlsruhe, la ville natale de Gottfried Schwab, était située dans le Grand-Duché de Bade, gouverné en 1870 par le Grand-Duc de Bade âgé de 43 ans, Frédéric Ier. L'année suivante, le duc susmentionné serait présent à la proclamation de l'Empire allemand qui a eu lieu dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Il était le seul gendre de l'empereur sortant Guillaume et, comme Frédéric Ier, était l'un des souverains régnants d'Allemagne. Au moment où Gottfried Schwab a eu 18 ans, l'Allemagne verrait Guillaume I prendre le trône à la mort de son père, Frédéric III. En 1893, un Gottfried Schwab de 23 ans quittera officiellement l'Allemagne, renonçant à sa nationalité allemande, et quittant Karlsruhe pour émigrer en Suisse. À l'époque, son occupation était notée comme étant celle d'un simple boulanger. Ici, Gottfried rencontrait Marie Lapeyre qui était de Kirchberg près de Berne, en Suisse et qui était de 5 ans sa cadette. Ils se marieront à Roguil, Berne, le 27 mai 1898 et l'année suivante, le 27 avril 1899, leur enfant Eugen Schwab est né. Au moment de sa naissance, Gottfried Schwab avait déménagé dans le monde, étant devenu ingénieur de machines. Quand Eugen avait environ un an, Gottfried et Marie Schwab ont décidé de retourner vivre à Karlsruhe et Gottfried a de nouveau demandé la citoyenneté allemande. Eugen Schwab suivrait les traces de son père, et deviendrait également ingénieur de machines, et dans les années à venir, il conseillerait à ses enfants de faire de même. Eugen Schwab finit par commencer à travailler dans une usine d'une ville de la Haute-Souabe, dans le sud de l'Allemagne, capitale du district de Ravensburg, dans le Bade-Württemberg. L'usine où il forgera sa carrière était la filiale allemande d'une entreprise suisse nommée Echewis. La Suisse entretenait de nombreux liens économiques de longue date avec la région de Ravensburg, les commerçants suisses du début du 19e siècle apportant du fil et des produits de tissage. Dans la même période, Ravensburg a livré du grain à Rorschach jusqu'en 1870, aux côtés d'animaux reproducteurs, et de divers fromages, au cœur des Alpes suisses. Entre 1809 et 1837, 375 Suisses vivaient à Ravensburg, alors que la population suisse était tombée à 133 en 1910. Dans les années 1830, des ouvriers suisses qualifiés ont créé une usine de coton avec une usine de blanchiment et de finition incorporée détenue et entretenue par les frères Herpf. Le marché aux chevaux de Ravensburg, créé vers 1840, a également attiré de nombreuses personnes de Suisse, en particulier après l'ouverture en 1847 de la ligne de chemin de fer de Ravensburg à Friedrichshafen, une ville située à proximité du lac de Constance à la frontière de la Suisse et de l'Allemagne. Les négociants en grains Rorschach se rendaient régulièrement au Ravensburger Corneau et finalement cette coopération, et ce commerce transfrontalier ont également conduit à l'ouverture d'une succursale de l'usine de machines zurichoise, et chez Wissessi, dans la ville. Cet exploit a été rendu plausible une fois qu'une ligne de train reliant les Suisses au réseau routier allemand a été achevée entre 1850 et 1853. L'usine a été créée par Walter Zubinger entre 1856 et 1859, et commencerait la production en 1860. En 1861, on peut voir le premier brevet officiel des fabricants Echewis à Ravensburg des installations particulières sur les métiers mécaniques pour le tissage de rubans. À cette époque, la succursale de Ravensburg d'Echewis serait dirigée par Walter Zubinger, et serait l'endroit où il a développé sa turbine tangentielle et où il a obtenu un certain nombre de brevets supplémentaires. En 1870, Zubinger et d'autres fondèrent également une usine de papier à Beffre près de Ravensburg. Il prit sa retraite en 1875 et consacra toutes ses énergies à l'avancée des turbines. Document fondateur de l'usine Echewis Ravensburg. Daté de 1860. Au tournant du nouveau siècle, Echewis avait mis de côté le tissage des rubans, et commencé à se concentrer sur des projets beaucoup plus importants comme la production de grandes turbines industrielles et, en 1907, il cherchait une procédure d'approbation et de concession pour la construction d'une centrale hydroélectrique près de Dogern am Rhin, rapportée dans une brochure de Bâle de 1925. En 1920, Echewis se trouve en proie à de graves difficultés financières. Le traité de Versailles avait restreint la croissance militaire et économique de l'Allemagne après la Grande Guerre, et la compagnie suisse trouva que le ralentissement des projets de génie civil nationaux voisins était trop lourd à supporter. La succursale mère d'Echewis était située à Zurich et datait de 1805 et l'entreprise, qui bénéficiait encore d'une bonne réputation, et d'une histoire de plus d'un siècle, était jugée trop importante pour être perdue. En décembre 1920, une réorganisation a été effectuée en réduisant le capital social de 11,5 à 4,015 millions de francs français, et qui a ensuite été porté à nouveau à 5,515 millions de francs suisses. À la fin de l'exercice 1931, Echewis perdait toujours de l'argent. Pourtant, l'entreprise courageuse a continué à fournir des contrats de génie civil à grande échelle tout au long des années 1920, comme indiqué dans la correspondance officielle écrite en 1924 du prince Guillaume Élie Durache à la société Echewis et au gestionnaire d'actifs de la maison Durache, le comptable Julius Heller. Ce document traite des conditions générales de l'association des fabricants allemands de turbines à eau pour la livraison de machines et autres équipements pour les centrales hydroélectriques. Ceci est également confirmé dans une brochure sur les conditions de l'association des fabricants allemands de turbines à eau pour l'installation de turbines et de pièces de machines au sein du Reich allemand, imprimée le 20 mars 1923 dans une brochure publicitaire d'Echewis pour un programme universel régulateur de pression d'huile. Après que la Grande Dépression du début des années 1930 ait dévasté l'économie mondiale, Echewis a annoncé. Alors que l'évolution catastrophique de la situation économique en lien avec la monnaie diminue, la société, Echewis, est temporairement incapable de maintenir ses engagements courants dans divers pays clients. La société a également révélé qu'elle demanderait un sursis judiciaire au journal suisse Neuzürcher Nachrichten, qui a rapporté le 1er décembre 1931 que la société Echewis a obtenu un sursis de faillite jusqu'à la fin de mars 1932 et, agissant en qualité de conservateur en Suisse, une société fiduciaire a été nommée. L'article déclarait avec optimisme qu'il devrait y avoir une perspective de poursuite des opérations. En 1931, Echewis employait environ 1300 travailleurs non contractuels et 550 salariés. Au milieu des années 1930, Echewis s'était à nouveau retrouvé en difficulté financière. Afin de sauver l'entreprise cette fois, un consortium a été recruté pour sauver l'entreprise d'ingénierie en difficulté. Le consortium a été en partie formé par la Banque fédérale de Suisse, qui était par hasard dirigée par un Max Schwab, qui n'a aucun lien avec Klaus Schwab, et une nouvelle restructuration a eu lieu. En 1938, il a été annoncé qu'un ingénieur de l'entreprise, le colonel Jacob Schmidin, deviendrait le nouveau président du conseil d'administration d'Echewis. Peu de temps après le déclenchement de la guerre en 1939, Schmidin aurait déclaré « Le déclenchement de la guerre ne signifie pas nécessairement le chômage pour l'industrie des machines dans un pays neutre, au contraire. » Echewis et sa nouvelle direction étaient apparemment impatients de profiter de la guerre, ouvrant la voie à leur transformation en un important entrepreneur militaire nazi.